Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
La souffrance et l'espérance dans l'épître de Paul aux Romains. Voici le thème de notre série de discussions.
Je suis content d'accueillir Sébastien sur le plateau d'Espérance aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour Yann et bonjour à tous. Nous abordons le thème de la souffrance et de l'espérance en nous appuyant sur les versets de la lettre de Paul aux Romains, chapitre 8. Je cède dès à présent la parole à Sandra pour la lecture de Romains, chapitre 8, versets 17. À 25.
Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et donc co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. C'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. Car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance. C'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption qui l'a servie pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien en effet. Jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptif de Dieu, quand notre corps sera délivré. Car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui, en effet, continue à espérer ce qu'il voit? Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance.
Merci Sandra. La dernière fois, nous avons parlé du fait que Dieu a adopté tout homme, toute femme qui croit en lui, afin qu'ils deviennent ses enfants. Cette merveilleuse vérité peut atténuer la souffrance qui nous étreint. Elle peut fortifier notre espérance.
Avez-vous remarqué, Yann, que dans le texte que nous venons d'écouter, Paul parle non seulement de la souffrance de l'homme, mais aussi de celle de toute la création?
Oui, la Bible déclare que la création entière gémit à cause de la souffrance qui pèse sur le monde. Oh, cette création attend patiemment la délivrance que Dieu accordera un jour aux hommes lorsque Jésus reviendra sur la terre. Personnellement, je trouve qu'il est surprenant de parler de la nature comme si elle souffrait et avait ses propres émotions.
Décrire la création comme si elle était une personne est un procédé couramment utilisé dans la Bible. Nous ne devons pas en conclure que la nature est un être doté de sentiments. Ce langage imagé employé ici permet simplement de faire passer des vérités importantes.
Lesquelles?
Tout d'abord, notre environnement naturel n'est plus celui qu'il était à l'origine quand il fut créé par Dieu. En ce temps-là, lorsque Dieu acheva son travail de création, il trouva tout très bon. Aujourd'hui, nous découvrons encore bien des merveilles dans la nature, mais malheureusement aussi beaucoup d'éléments mauvais. Le monde naturel est déréglé, il n'est plus ce qu'il aurait dû être. En bref, la nature souffre et à son tour, elle fait souffrir.
Pourquoi?
Parce qu'elle a été rendue fragile, imprévisible et dangereuse.
Qui l'a rendu ainsi et pourquoi?
Paul évoque les malédictions ou jugements que Dieu prononça lors de la désobéissance d'Adam et d'Ève. Ce couple vivait dans le paradis, dans un environnement idéal et idyllique. Toutefois, Dieu livra ce couple et donc l'humanité entière aux conséquences de leur désobéissance. Or, l'une de ces conséquences est que l'homme est entré dans un combat contre une nature devenue déréglée. Il est vrai, la nature travaille pour répondre aux besoins de l'homme, mais elle peut aussi se retourner contre lui. La nature apporte ses richesses au service de l'homme, mais elle peut aussi s'en prendre à sa santé, à ses biens et à sa vie. L'homme peut souffrir à cause d'une nature imprévisible. Toutefois, par sa façon d'agir, il contribue à abîmer et polluer cette nature qui se retourne encore plus contre lui. Un cercle vicieux, un engrenage destructeur s'est établi entre l'homme et la nature, causant un conflit, engendrant peine et douleur, amenant inquiétudes et confusions.
Mais comment les hommes contribuent-ils à ce cercle vicieux de souffrance?
Les exemples sont nombreux. Pensons à l'industrialisation. Il est important d'inventer, de fabriquer des appareils qui contribuent à notre confort et à notre bien-être. Toutefois, les usines sont souvent polluantes et la détérioration de la qualité de l'air et des eaux génère de nombreux problèmes de santé. De plus, l'homme, à force de brûler les hydrocarbures nécessaires pour maintenir son niveau de vie confortable, participe, selon l'explication donnée par la plupart des scientifiques, au réchauffement climatique. Ce phénomène est en train de changer nos climats et d'augmenter les phénomènes météorologiques extrêmes et dangereux. Ainsi, si du fait de ce réchauffement, il pleut moins dans certaines régions, on verra alors se développer plus de sécheresses et en conséquence, davantage de populations seront victimes de famine. Les activités de l'homme contribuent au dérèglement de la nature qui, à son tour, se retourne contre lui, causant perte de vie et de biens. L'humanité gémit à cause de cette nature difficile à dompter. Oui, nous souffrons tous et aspirons à un environnement meilleur.
Et beaucoup de nos amis auditeurs vivent avec ces réalités au quotidien.
Et l'objectif de l'apôtre Paul est d'apporter une espérance à ceux qui souffrent. Car, en effet, le chrétien possède une espérance personnelle, celle de la résurrection d'entre les morts. Toutefois, la Bible parle aussi d'une espérance planétaire, et Paul évoque justement cette espérance dans ce chapitre 8 de sa lettre aux Romains.
Parlez-nous-en alors.
Au verset 21 du chapitre 8, Paul déclare « La création elle-même sera délivrée de la puissance de la corruption. » Puis, il ajoute que la création connaîtra la même gloire que les enfants de Dieu. Nous parlons souvent de la résurrection pour la vie éternelle. Mais alors, la question se pose, où vivrons-nous? La Bible enseigne qu'il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel. Elle laisse supposer que notre environnement naturel ne disparaîtra pas entièrement, mais qu'il sera recréé afin d'être adapté à l'éternité. Paul l'explique. La terre sera délivrée de la corruption. Autrement dit, tout ce qui en elle est mauvais en sera retranché, ôté à jamais. Alors, en ce jour, elle ne sera plus assujettie ni à la détérioration, ni à la mort. les enfants de Dieu ressuscités vivront en parfaite harmonie avec cette nouvelle création, ce nouvel environnement qui ne sera plus jamais source de lutte et de souffrance.
Mais les chrétiens disent souvent qu'après leur mort, ils vivront au ciel avec Dieu. Cependant, vous semblez dire qu'ils vivront sur une nouvelle terre. Pouvez-vous vous expliquer davantage?
Dans le langage chrétien, le ciel désigne le lieu où Dieu demeure avec ses anges. Les hommes habitent sur la terre. Or, dans cet âge présent, nous ne pouvons ni voir Dieu face à face, ni l'entendre s'exprimer, car il existe comme une séparation entre les lieux spirituels, le ciel, et ce qui est matériel, la terre. Toutefois, à travers le chapitre 8 de sa lettre adressée aux Romains, Paul affirme que dans la vie éternelle, la nouvelle terre sera réunie aux nouveaux cieux. Autrement dit, il n'existera plus jamais de séparation entre la terre et les cieux. Dès lors, la gloire de Dieu remplira la nouvelle terre. Les hommes verront le Seigneur face à face et ils vivront en communion parfaite avec lui. Ils habiteront sur une terre transformée et purifiée. Nous ignorons évidemment en quoi consistera exactement cette nouvelle existence où la terre et les cieux seront recréés et réunis. Le concept de la vie éternelle dépasse notre entendement et la Bible ne nous donne que quelques petits aperçus très imagés. Une nouvelle terre et des nouveaux cieux seront créés et tous deux seront unis l'un à l'autre. Ils refléteront de façon parfaite la gloire de Dieu. Et les hommes verront le Seigneur face à face, pour toujours. Ils pourront vivre en communion avec lui. C'est alors que tout ce qui est dans cet âge présent nous attriste, nous tourmente ou nous fait pleurer, disparaîtra. La souffrance ne se trouvera plus, la mort n'existera plus.
Merci Sébastien. Malheureusement, nous devons nous arrêter là, mais Sébastien sera de retour parmi nous la prochaine fois pour poursuivre ces discussions sur le thème de la souffrance et de l'espérance.
En attendant, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.